le père a fait illusion à la fin du mandat britannique. Le premier jour de l'arrivée, il avait illusion au mandat britannique, il avait illusion à la création de l'État d'Israël. Pour mieux comprendre la situation, peut-être il faut vraiment remonter à l'époque ottomane, quand les Ottomans étaient au pouvoir ici. Et à la fin de l'époque ottomane sur la Palestine, qui était d'une manière tardive par rapport aux autres pays, il y avait beaucoup de mouvements de séparation en Europe. Et ce qui a ouvert aussi les yeux à ce problème qu'on appelle le problème juif, et les juifs avaient les yeux ouverts aussi à avoir un État pour eux. Et j'ai critiqué pas mal les Britanniques, les Anglais, d'être responsables de la situation d'aujourd'hui, car ils sont à la racine qu'ils étaient pour envoyer les Juifs ici pour créer leur foyer national, avec la promesse de Balfour donnée aux Juifs en 1917, qui n'était pas bien respectée tel son texte. Et quand même, il y avait les vagues d'immigration juive, et n'oubliez pas que à la fin de l'époque ottomane, la Palestine était occupée par les Anglais en 1917 et que les mandats britanniques sur la Palestine étaient imposés en 1922. Moi j'appelle ces 5 ans une occupation, pas des questions. Et quand même, soit autant de mandats britanniques, soit l'occupation britannique, les Britanniques, les Anglais ont mené deux critères d'application de la loi, une favorable aux Juifs, une pour tout le monde. Et depuis le commencement, ils ont vraiment distingué pour créer cet État juif. Et au fur et à mesure, les Juifs grandissaient en nombre dans le pays, ils achetaient plus de terrains dans le pays, et s'installaient bien dans le pays. Et à l'époque anglaise, on peut sentir que la haine entre les Juifs et les Arabes remontait bien fort. En sachant, j'ai bien attiré votre attention aussi, qu'il y avait déjà des Juifs qui habitaient dans le pays, déjà avant les Anglais. On sait très bien que les Juifs se trouvaient dans quatre villes majeures. Jérusalem, Hébron, Tibériade et Safad. Et au moins, ils étaient là depuis le 15e siècle, au moins. C'est après que les Juifs, et ou bien les non-catholiques, étaient chassés hors de l'Espagne. Les Ottomans, ils ont reçu les Juifs sur leur territoire, et comme la Palestine faisait des territoires, une communauté est venue ici et l'habitait. Mais ça n'a rien à faire avec les Juifs venant de l'Europe de l'Est, surtout, et la Russie, et plus tard, l'Europe Ouest et l'Europe et l'Amérique, plus tard. Ces Juifs colonialistes qui sont venus pour coloniser la Palestine, après avoir remonté le mouvement sioniste à la fin du 19e siècle, 1896 à peu près. Et oui, ces Juifs, soutenus par l'Angleterre, s'installaient bien, ils gagnaient des positions, des terrains. Et le problème a approfondi entre les Juifs et les Arabes, entre les Arabes et les Britanniques. Et finalement, en 1947, c'était en novembre, les Nations Unies proposaient le plan de partage. Et automatiquement, les Arabes, sans réfléchir pour deux secondes, ils ont dit non. Ils avaient raison, ils avaient tort, ce n'est pas notre sujet. Personnellement, je comprends deux raisons pour lesquelles les Arabes ont dit non, mais je les accuse de ne pas avoir pris le temps de bien réfléchir pour le résultat à venir. Les Juifs étaient des malins, comme d'hab, et n'ont rien dit. Rien, ni oui ni non. Ils ont gardé le silence. Et en 1948, au moment de la sortie des derniers soldats britanniques à cause de la fin des mandats britanniques, les deux régions juives se trouvaient rassemblées à Tel Aviv, sans savoir l'étape prochaine, sans savoir quoi faire plus tard. Mais vraiment, au moment des années, David Ben-Gourion, qui était à la tête du Fonds national juif, prenait l'initiative et déclare l'indépendance de l'État d'Israël. Et cette indépendance était bien reconnue tout de suite par les Anglais, par les Français, par les Américains, par les Russes et au fur et à mesure par le monde entier. Ainsi, il a fixé le droit des Juifs selon le plan de partage et la déclaration de l'indépendance était selon ce plan de partage. Ce n'est pas selon un autre principe, non, c'était selon le plan de partage de 47 que les Arabes ont rejeté. Malheureusement, j'ai dit toujours qu'il nous manquait de bons dirigeants depuis l'époque ancienne, y compris les 47-48. Et ces Arabes ne savaient pas quoi faire, sauf déclarer la guerre contre le nouveau-né État Israël. Ils croyaient qu'ils allaient gagner. Ils n'ont pas fait attention que cette armée était déjà les noyaux, bien le noyau de cette armée était déjà les milices juives qui étaient bien entraînées par les Britanniques. Les Irgun, les Stern, les Balmach, les Haganah, plusieurs milices que faisait l'armée israélienne. Et c'était une armée puissante quand même. Et elles avaient bien les moyens, soutenus par l'Angleterre, la France, les Américains. Elles étaient bien soutenues. Et n'oubliez pas ce qui est arrivé dans les années 30 en Europe, qui poussait de donner plus de soutien. Alors là, les Arabes se sont trompés de déclarer la guerre. Et à la fin, Israël, à la place d'occuper les 54 seulement qui étaient proposés par le plan de partage, il a occupé 78% de la Palestine. Le père nous a parlé que du village entier palestinien qui était déraciné ou bien habité par des juifs. Oui, c'était le village qui se trouvait dans l'État juif plutôt. Mais les villages qui se trouvaient dans l'État arabe, les Israéliens n'ont pas détruit en général, ils l'ont gardé. Et un des exemples, c'est Nazareth, la Galilée, le village de Ein Ma'el, Iksal à notre droite, un peu le village de la Galilée. C'était dans le territoire de l'État arabe, ils l'ont gardé. Maintenant, ces Arabes étaient divisés en deux catégories. Les Arabes qui sont restés chez eux sont devenus des réfugiés, étaient sur le régime militaire israélien, et les Arabes qui sont partis, surtout poussés ou bien expulsés de leur village qui était dans l'État juif, ou bien les Arabes qui sont partis au commencement de la guerre, par peur de la guerre, ces Arabes se trouvaient des réfugiés. À l'époque, ils ne faisaient que 870 000 réfugiés. Aujourd'hui, il s'agit de 5 millions et demi, et peut-être maintenant, on peut parler de 6 millions, qui se trouvent dans des camps de réfugiés autour de la Palestine historique, y compris la Cisjordanie, comme nous a dit le père l'autre jour à Jéricho, il y en avait plein, Gaza, malgré que c'est le territoire palestinien, mais c'était à l'époque sous le contrôle, c'est le régime jordanien et égyptien. La Jordanie même, le Liban et la Syrie. Et la statue de réfugié palestinien ne s'arrête pas à la première génération qui s'enfuyait la guerre ou bien qui était expulsée. C'est un titre qui est resté attaché à toutes les familles qui sont parties. Et aujourd'hui, on parle de la 7e génération. Elle est toujours considérée réfugiée. Et le plan Trump, c'était vraiment pour mettre un fin à ces problèmes de réfugiés. Et bien sûr, d'une manière négative pour nos Palestiniens et sans déclarer la responsabilité israélienne, qu'à cause de la création de l'État d'Israël, ces Palestiniens sont devenus des réfugiés. Les Arabes qui sont restés chez eux, alors c'était sur le régime militaire, mais devant la silence internationale et la faiblesse arabe, qu'est-ce qu'elle allait faire Israël? Elle allait annexer ce qui a gagné de plus, ces villages et ces villes des Arabes. Et c'est comme ça que ces Arabes sont devenus des citoyens israéliens, qu'ils ont le passeport israélien, ils ont le droit de voter aux élections législatives comme c'est représenté, comme va prendre place lundi prochain, dans deux jours. Et oui, c'était pas leur choix, c'était imposé par l'État d'Israël. Certains se trouvent confortables avec cette situation, surtout au niveau travail, occasion de travail. Un peu, la situation économique est meilleure en Israël et la vie passe bien. Sauf que au niveau occupation au commencement, presque les Israéliens ont consommé la plupart des terrains et on trouve les Arabes enfermés dans leurs villes et villages. Et les autres terrains étaient pris par des différentes lois. Je en parlerai plus tard en parlant de la colonisation juive ou bien israélienne dans le territoire palestinien occupé en 67. Alors, les Arabes de la Galilée sont des Arabes israéliens d'origine palestinienne. Mais leur nationalité aujourd'hui, elle est israélienne. Elle est israélienne. Maintenant, cette annexe des territoires, est-ce qu'Israël l'a répété? Oui, elle l'a répété. Et quand? Après la guerre de 6 jours, après la guerre de 67. Qu'est-ce qu'il a annexé? Le plateau de Golan. Il a annexé la ville de Jérusalem. Mais là, Israël a bien appris le menace démographique des Arabes. Vous regardez, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, il y en a 8 millions d'habitants en Israël, dont 2 millions sont des Arabes. Et pour l'État d'Israël, c'est une menace. C'est une menace. Et si vous demandez pourquoi Israël n'accepte pas la solution d'un seul État, c'est la question démographique. Car s'il s'agit d'un seul État, 2 millions d'Arabes en Israël contre 6 millions juifs, 5 millions et demi côté palestinien, alors les Arabes deviennent majoritaires. Vous voyez? Pour cela, au bout ou bien au cours de l'histoire, depuis 1948 jusqu'à maintenant, Israël n'a pas laissé les efforts que faire venir les juifs du monde entier pour faire une équivalence démographique dans le pays entre les juifs et les Arabes. Et être majoritaire. Alors, concernant le plateau Golan, le Golan contenait quelques villages syriens, druzes et chrétiens. Et aujourd'hui, il n'en restait que 4 villages. Le reste était détruit lors de la guerre, je le parais, ou bien c'était pas, les gens sont partis. Et ces 4 villages ont gardé sa population. Et la population est devenue pas tellement israélienne comme Jérusalem. Les gens de Jérusalem, comme notre chauffeur, ne sont pas des citoyens israéliens. Ils sont des résidents. Quelle est la différence? La résidence, on peut la demander, on peut la voir, mais c'est avec difficulté qu'on peut avoir la nationalité d'un pays. Alors les résidents temporaires, la nationalité, c'est toujours. Alors, ces résidents de Jérusalem ou bien des plateaux de Golan peuvent être enlevés, expulsés hors de la ville quand les autorités le veulent. Alors, Israël a annexé la ville de Jérusalem et les plateaux de Golan, mais n'a pas annexé la population. Il a bien appris la leçon de menaces démographiques. Et si vous demandez à notre chauffeur avec quel papier il part à l'étranger, elle va vous dire avec un document de voyage, mais pas un passeport. Un document de voyage qu'on appelle à la française laissez-passer. Mais un autre point à connaître, à savoir, comme la Jordanie était responsable de Jérusalem et des Palestiniens dans la Cisjordanie, les Jordaniens nous ont laissé le droit de porter les passeports jordaniens jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'est pas, à la fin, on n'est pas des citoyens complets comme les Jordaniens. Sauf si on fait le service militaire en Jordanie, qui exige d'avoir un numéro national. Et les Palestiniens qui résident ici n'ont pas le numéro national et ils ne font pas le service militaire en Jordanie. Certains, oui, mais pas tous. J'espère que c'est clair maintenant pour vous de distinguer. Nous, les Palestiniens du territoire palestinien, ce qu'on appellerait aujourd'hui la Cisjordanie ou bien West Bank ou bien la Palestine des fois, ou bien la zone autonome, on était soumis sous le régime militaire israélien depuis 1967 et on continue de rester sous le régime militaire israélien. Et le responsable de ces territoires, c'est ce qu'on appelle l'administration civile. Et faites attention que le nom porte le piège. Administration civile. L'administration n'est pas civile, mes amis. L'administration, c'est militaire. Le civil, c'est la population. C'est l'armée israélienne qui est en charge. Nous sommes sous le régime militaire. Pour cela, quand je me déplace avec vous, il me faut l'autorisation. Cette autorisation est délivrée de la part de l'armée israélienne. Ce bras de l'armée qu'on appelle l'administration civile. Alors, par exemple, lundi, en principe, je serai illégal avec vous en Israël. Pourquoi? À cause des jours des élections, Israël boucle le territoire, aucun Palestinien peut passer. Mais moi, comme je suis déjà dedans, je m'en fous. Moi, j'ai un passeport palestinien issu selon les accords de Oslo qui, à la fin, il reste un laissez-passer, un document de voyage. Et aussi, j'ai un autre passeport jordanien avec lequel je voyage à l'étranger. Je trouve il est plus fort que le passeport palestinien pour l'étranger. Par exemple, pour aller en Turquie, j'ai pas besoin de visa. Avec mon passeport palestinien, j'ai besoin de visa. Vous voyez, il y a plusieurs pays, par exemple la Tunisie aussi, je n'ai pas besoin de visa. Et c'est vrai, je ne suis pas citoyen complet comme le Jordanien, mais c'est pour la Jordanie. Mais à l'étranger, je suis un Jordanien. Ouais, ouais. C'est un avantage pour moi. Et les amis, l'an 1987, peut-être le père se rappelle, je ne sais pas s'il venait à cette époque-là chez nous, il y avait ce qu'on appelle le premier intifada. Ce premier intifada avait pas mal de succès, au commencement surtout, que l'a fait remonter à la phase internationale la cause palestinienne de nouveau. Et une sorte de pression est exercée contre Israël de faire quelque chose, de mener la justice pour le peuple palestinien. C'est vrai que c'était des tentatives modestes, mais quand même mieux que rien. Et le problème venait quand Saddam Hussein occupait Koweït. Vous allez me dire, mais quel est le lien? Je vous dis. Le lien, c'était les Américains qui ont laissé Saddam Hussein rentrer dans le Koweït. C'était le piège. Et les Américains voulaient le faire sortir. Ils savaient bien qu'ils ne pouvaient pas le faire tout seuls, sauf s'ils ont le soutien arabe. Et ce soutien arabe n'était pas facile, surtout pour le roi Hussein et le roi Hosni Moubarak qui vient de mourir il y a 3 jours. Oui, Hosni Moubarak est mort il y a 3 jours. Et ces deux chefs, ils ont dit aux Américains, mais pour qu'on puisse vous donner le soutien, donnez-nous le soutien devant nos peuples. On ne peut pas continuer chef d'État comme ça sans que la cause palestinienne est résolue. George Bush, le père, a promis de résoudre le problème. Avant cela, je vous en prie de bien regarder à gauche. Vous avez un kibbutz, c'est le kibbutz Mizra. C'est un kibbutz un peu exceptionnel. Juif libéral. Vous savez que le juif, comme les musulmans, ne mange pas les viandes de porc. Je vous assure que dans le kibbutz, on fait l'élevage de porc et la production de viande de porc, ici. Mais à condition que les porcs ne touchent pas la terre d'Israël, qu'elle soit cachère. Eh oui. Alors, c'est ici, dans ce kibbutz, qu'on fait l'élevage des porcs et la protection de la viande, sans que le pied touche le pied d'Israël, des chrétiens et certains juifs. Ouais, ouais. Et moi, j'ai des amis qui mangent le porc. Depuis qu'ils étaient en Europe, ils avaient l'habitude de manger les porcs et n'ont pas arrêté. Alors, maintenant, George Bush a promis les Arabes de résoudre. Et les Arabes, ils ont donné le soutien géographique, économique, militaire et humain. et on a fait sortir Saddam hors du Koweït. Et si vous comparez, c'était la même image, occupation militaire. Alors, après avoir sorti les Irakiens hors du Koweït, les Américains, ils ont rassemblé les Arabes et les Israéliens autour des négociations. Alors, les mesures n'étaient pas équivalentes. Quelque chose n'allait pas. Tout d'abord. Deuxièmement, c'était la conférence de paix de Madrid en Espagne, je me rappelle. C'était les accusations. C'était, j'allais dire, un peu l'échec. Mais quand même, c'était pas fini. Il y avait d'autres négociations qui prenaient les relais plus tard entre chaque côté. Au commencement, les Israéliens, ils ont dit, on n'accepte pas une délégation palestinienne qui représente les Palestiniens. Et les Palestiniens, ils ont insisté d'avoir leur délégation indépendante. Là, certains disent, ils ont fait du bien. Moi, j'allais dire, ils ont fait du tort de se séparer de la Jordanie, car quand la Palestine est occupée, c'était le territoire jordanien. Alors, là, tout seul, nous, Palestiniens, on n'a pas de pouvoir, puisqu'on n'a pas un État indépendant. Mais la Jordanie, c'est un État indépendant qu'Israël respecte. Alors, je crois que les Palestiniens ont fait du tort de se séparer de la Jordanie, quand même depuis le premier intifada, mais aussi pour l'équipe de négociation. Et il s'est représenté tout seul à la fin. Israël a accepté. Et d'une manière secrète, Palestiniens et Israéliens ont négocié, encouragés par Mahmoud Abbas côté palestinien et par Shimon Peres côté israélien. Et quel était le résultat? C'était les accords d'Oslo. Qu'au commencement, tout le monde était joyeux et content que finalement on va vivre en paix entre les deux peuples. Et finalement, on a appris qu'on est tombé dans le grand piège. Tout d'abord, les deux grands pièges. Lesquels? Le premier, c'est que les Palestiniens devaient reconnaître le droit d'Israël d'exister. Je ne suis pas contre, c'est pas mal, ok. Mais en échange, qu'est-ce qu'Israël allait reconnaître? Il allait reconnaître seulement que l'OLP et les représentants des peuples palestiniens, rien n'est égal. Rien n'était égal. Et j'accuse les dirigeants palestiniens d'avoir accepté ça. Il fallait accepter que les Palestiniens devaient avoir leur État aussi. Deuxièmement, selon le plan d'Oslo, on a divisé le territoire en trois zones, A, B, C. Et quand on était à Jéricho, on était dans la zone A. Quand on sera à Bethléem, on sera dans la zone A. Et les zones A, il s'agit des grandes villes gérées par l'autorité palestinienne au niveau administration civile et au niveau sécurité. Zone B, c'était les villages. Et aujourd'hui, en sortant de Jéricho, on a traversé quelques villages palestiniens, si vous avez remarqué, tout près de Jéricho, plus loin de Jéricho. Alors, c'était géré au niveau administratif par les Palestiniens. Mais au niveau sécurité, c'est géré par les Israéliens, l'armée israélienne. Zone C, tout reste géré par les Israéliens. Maintenant, ma lecture personnelle de l'occupation israélienne, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre. Israël veut occuper le maximum de territoire et le moins de la population. Et les accords d'Oslo, c'était le plus grand cadeau des Palestiniens aux Israéliens d'occuper le maximum de territoire et le moins de population. Comment? Si on fait la différence entre les trois zones, A, B, C, au niveau géographique, les zones A fait que 14% de la Palestine. Je parle de là, de la Cisjordanie, le 22% qui restait de la Palestine historique. 14% seulement. Zone B fait 24%. Zone C fait 62%. Quel est le pourcentage de la population? Zone A, le 14% de l'espace géographique, fait 75% de la population. Les zones B administration mixte entre Israéliens et Palestiniens fait 20% à peu près. Et la zone C, à peine qu'on a 5% de la population palestinienne. Vous voyez, alors c'était vraiment le plus grand cadeau aux Israéliens de la part des Palestiniens de faire l'occupation israélienne légitime. Et en plus, malgré que les zones A doivent être gérées au niveau sécurité par l'autorité palestinienne, depuis le deuxième intifada, l'armée israélienne rentre dans les villes palestiniennes, les zones A, agit facilement sans aucun problème et sans poser. Deuxième point, les zombies, c'est sous le contrôle de sécurité israélienne. Et je viens vous dire qu'au niveau des sécurités, c'est une limite ou bien c'est une ligne rouge pour les Israéliens. Israël peut tout faire pour la question de sécurité. Le Jourdain, on est passé 2-3 villages palestiniens zombés, mais le reste était zoncé. Non, c'est toujours palestinien ABC, c'est toujours palestinien, mais sous l'administration palestinienne ou bien israélienne. Netanyahu, avec l'administration Trump, veulent annexer la vallée du Jourdain.
En prière pour la paix entre Israël et la Palestine, je vous propose d'écouter le West Eastern Divan Orchestra, l'orchestre du divan occidental oriental. C'est un orchestre symphonique qui a la particularité de réunir chaque été environ 80 jeunes instrumentalistes d'Israël, de Palestine occupée, des États arabes voisins, Syrie, Liban, Égypte, Jordanie et des territoires palestiniens qui jouent ensemble. L'orchestre se réunit chaque été en Espagne, à Séville, où il répète pendant le mois de juillet avant d'entreprendre en août une tournée mondiale.